Bonsoir à toutes et à tous, mais je voudrais dire que c'est bien sûr le citoyen de notre part, c'est le président de l'université, un côté plutôt symbolique, je représente une communauté, et on a cité Warbel tout à l'heure, Francis Kern et tous ceux, et les étudiants, je suis extrêmement ému, les étudiants étaient au premier rang, donc là, les représentants d'une communauté, et vraiment c'est ça que je voulais vous dire. Parce que je ne voudrais pas être trop long, mais je fais un petit papier parce que c'est très important. Je crois que bien sûr, nous partageons tous les éléments du combat humain qui ont déjà été évoqués, je voudrais en rajouter un aujourd'hui. En plus, c'est que le combat de l'Université et notre combat, c'est le combat pour la liberté académique. La liberté académique, finalement, la porte après une grande lignée de personnes dans le monde entier, et en particulier à Strasbourg, j'ai trois mots que je dois citer, parce qu'ils sont absolument fondamentaux. C'est l'historien Marc Bloch, c'est bien sûr le mathématicien et le philosophe Jean Carrières, et c'est le médecin et l'épistémologue Georges Canguilhem. Pourquoi je cite ces trois personnes? On peut en citer d'autres. D'abord, ce sont des Strasbourgeois, des gens qui ont bossé chez nous. Ce sont des grands scientifiques, des grands chercheurs, des grands enseignants. Et tous les trois ont eu un engagement exceptionnel dans la résistance. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur valeur au service d'un engagement pour la société. Et aujourd'hui, ces valeurs, c'était des valeurs universitaires, c'était des valeurs fondamentales. Et aujourd'hui, marché dans la continuité de Canguilhem, dans la continuité de Marcol, et aussi dans la continuité de Jean Carrières. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Cette liberté académique, ce n'est pas quelque chose en tant que particulier ou contractuel. Ça n'est pas quelque chose en transit, ça n'est pas quelque chose avec quoi on peut marchander. Je prends encore une fois que les universitaires sont là pour affirmer qu'elles sont les gardiennes de quelque chose, on peut appeler ça l'universalité ou autre chose, et c'est une responsabilité collective pour nous de garder cette universalité. Et je veux dire que l'Université, parmi les autres choses qu'elle a fait et qu'elle a accompli, elle nous a aussi donné l'occasion à nous, collectivement, de pouvoir affirmer devant tout le monde cette universalité. Je crois que c'est extrêmement important. On ne peut pas supposer nier la liberté académique, ni en Turquie, ni en France, ni partout dans le monde. Et je crois que, encore une fois, je voudrais dire, ça n'est pas le plaidoyer corporatiste de l'universitaire qui défend ce domaine. Il s'agit là vraiment d'une notion fondamentale, une notion fondamentale qui sont nos valeurs, et je crois que c'est notre responsabilité collective, les universitaires qui sont ici, de défendre ces valeurs vis-à-vis de la société. Je voudrais vous dire que l'UNESCO a un petit texte que je vous lis rapidement de l'UNESCO. Alors l'UNESCO, on sait ce que c'est, je ne sais pas si vous avez vu l'initiale. Il y a E, c'est enseignement, S, c'est science, et C, c'est culture. Et c'est justement sur ces trois éléments que le combat de l'UNESCO est important. J'en avais un sur les enseignants, mais je vais faire court parce que je voulais vous seul simplement sur l'enseignement supérieur, parce que c'est un texte important. Les enseignants de l'enseignement supérieur ont le droit d'effectuer des recherches à l'abri de toute ingérence ou de toute restriction. Dès lors que cette activité s'exerce dans le respect de la responsabilité professionnelle et des principes professionnels nationalement et internationalement reconnus, de rigueur intellectuelle, scientifique et morale s'appliquant à la recherche. Et puis là, c'est pour ces principes universels que tu combats et que nous combattons avec toi. Et on n'est pas toujours aussi, pour reprendre ce que disait Philippe, que nous n'avons pas le droit de parler pour ce qui se passe en Turquie. Nous devons nous occuper uniquement de nos visions alsaciennes. Je prétends que l'Université de Strasbourg a mis au cœur de son projet un slogan, et ça n'est pas un slogan, il s'agit de dépasser les frontières. Et justement, en matière de recherche, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières parce que nous sommes tous membres d'une même communauté académique. C'est une communauté ouverte. Personne ne peut en être exclu pour des questions d'appartement. Personne ne peut en être exclu pour des raisons de différence, des différences d'opinion ou des différences de croyance. Et c'est pour ça aussi que nous nous battons. Et c'est pour ces raisons fondamentales aussi que le cercle du temps vert soutient plus Marseille. Le cercle du temps vert, c'est l'assemblée strasbourgeoise de tous les académiciens, de toutes les personnes qui ont une reconnaissance particulière dans la communauté scientifique, et en particulier ont signé cet appel les deux prix Nobel de Strasbourg, Jules Hoffmann et Jean-Marie Lé. C'est aussi pour cela, comme l'a rappelé Francis tout à l'heure, que j'ai souhaité placer l'UNA sous la protection symbolique de l'université en lui accordant ce que nous avons appelé peut-être un peu pompeusement, mais avec beaucoup de sincérité, un asile académique. très simplement conclure, non pas seulement par des encouragements, mais par des remerciements. Parce qu'à travers ton combat, tu nous as révélé aussi peut-être que tu as fait qu'une communauté s'est mobilisée et qu'aujourd'hui, elle peut apporter par cette mobilisation le soutien que tu mérites. Et le soutien que mérites aussi nos valeurs, et je conclurai par